Chapitre 42. Le 20 août 2016, minuit.
Toi ?
Tu attendais quelqu'un d'autre ? Clotilde hésita entre répondre et hurler son dépit à la nuit. Ils se défiaient dans l'ombre, face à face devant la cabane du berger, tels des boxeurs bombant le torse. Chienne et loup, proie et prédateur, voleuse et gendarme, femme et mari. Elle et Franck. Passée la stupéfaction, Clotilde tenta de rassembler les pensées dispersées dans son crâne comme une volée de moineaux après un coup de fusil, de ranger en file indienne les questions qui se bousculaient en désordre. Après le « qui », elle se concentrait sur le « comment ». Comment Franck pouvait-il savoir qu'elle se trouvait ici ? Qu'elle se trouverait ici, puisqu'il était impossible de la suivre sans se faire repérer dans cette garrigue ? Son mari les avait donc attendus devant cette cabane perdue dans le maquis. Il connaissait le lieu du rendez-vous. Elle le revit dormir, ronfler, lorsqu'elle s'était échappée des œufs proctes sur la pointe des pieds, il y a une heure. Il simulait. Il avait tout manigancé. Franck frappa pourtant le premier. « Ton thé va refroidir. Tu l'as oublié sur la table avant de partir. »«
Qu'est-ce que tu fais là ?»
Il éclata de rire. « Non, Clotilde. Non, pas cette fois. On va pas inverser les rôles. »«
Qu'est-ce que tu fais là ?»
répéta Clotilde.
« Arrête ça, Clo. Quand le voleur se fait prendre la main dans le sac, il ne demande pas à la patrouille de police pourquoi elle se trouve au bon endroit au bon moment. Je ne suis pas mariée avec un flic. Alors dis-moi comment tu as su. »
« Je t'ai suivi.
Impossible, trouve autre chose. »
Franck parut ébranlé un instant, comme s'il hésitait à rebrousser chemin sans rien dire d'autre. Il se retint.
« S'il te plaît, Clotilde. S'il te plaît, quoi ? Ok, tu veux qu'on mette les points sur les i ? Alors allons-y. Ma tendre épouse reçoit des textos toute la journée. Il répond. Ma tendre épouse invente 1000 prétextes, y compris la tombe de ses parents pour aller retrouver son amant. Et comme il ne dispose pas encore d'assez de temps, ma tendre épouse attend que je sois endormie pour aller passer la nuit avec lui. »
Clotilde explosa.
« Tu as voulu me piéger, c'est ça ? Le courrier que j'ai trouvé coincé sous mon essuie-glace, c'est toi qui l'as écrit, en suivant le modèle du premier ?»
Franck soupira. « Bien entendu, Clotilde, si ça t'arrange. Imagine que c'est moi depuis le début qui prends toutes les identités. Ton mari, le père de ta fille, ta mère ressuscitée, ton amant. Les textos de ce Nathal et Angeli sur ton téléphone, c'est peut-être moi aussi qui les écris ?»
Franck avait fouillé dans la messagerie de son portable. Il avouait. Pire encore, il assumait. « Je sais que je te déçois, Clo. Tu m'obliges à faire des trucs dont je suis pas fière. Que j'aurais jamais cru faire. » Oui, j'ai fouillé dans ton téléphone pour lire ce que racontait cette Angeli. Du moins, avant que tu ne te sépares plus de ton portable. »
Il le lui paierait, se promit Clotilde. Franck le lui paierait. Plus tard. Tout en discutant, Franck avait saisi le bras de Clotilde et la forçait à redescendre avec lui. Clotilde résistait comme elle pouvait, observant la cabane de berger qui n'était plus qu'une silhouette dans la nuit. Orsou s'était fondu dans la montagne. Son mari lui devait une explication.
« Tu n'as pas pu me suivre ce soir, Franck. Personne ne l'aurait pu sans lumière, une lumière que j'aurais forcément aperçue. Tu connaissais l'endroit où j'allais. Alors je t'en prie, Franck, réponds-moi. J'ai besoin de savoir si c'est toi qui m'as envoyé cette lettre pour m'attirer ici. Si c'est toi qui... »
Elle était à bout de nerfs. Quelqu'un voulait la rendre folle. Quelqu'un y parvenait.
Oh, et puis merde, je veux savoir si c'est toi ou si c'est ma mère qui me l'a écrite.
Franck la fixa, effaré, presque effrayé. Les ombres creusaient leurs rides respectives, comme deux vieux acteurs dans les films en noir et blanc mal éclairés.
« Bordel, Clotilde, réagis ! Je suis en train de te faire comprendre que je vais te quitter, parce que tu embrasses un autre type dès que j'ai le dos tourné, que tu vas faire l'amour avec ce salaud pendant que je suis couchée. Valou dort chez nous, sans se douter de rien. Tu es en train de tout foutre en l'air. On est en train de tout foutre en l'air, si tu préfères. Ici, maintenant. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta mère ? Pire encore, le fantôme de ta mère, putain !»
Il se força à rire.
« Je sais qu'il y a des hommes qui quittent leur femme à cause de leur belle-mère, mais pas à cause d'une belle-mère morte il y a 27 ans !»
Il se recula encore, tirant le bras de sa femme. La cabane avait disparu dans le noir.
« Tu n'as rien d'autre à me répondre, Clo ? Enterre les morts, bordel ! Même si tu veux démolir notre couple, tu as une fille, Tu peux pas t'en foutre à ce point !»
Un voile se souleva dans le cerveau de Clotilde. L'homme qui lui parlait, qui lui aboyait dessus, était un parfait inconnu. C'est lui qui était venu la draguer lors de cette soirée où il était déguisé, comme par hasard, en Dracula. C'est lui qui avait voulu se marier avec elle. C'est lui qui avait voulu rester. Elle n'avait fait qu'accepter sa présence depuis des années. Accepter, sourire, se taire.
Je ne m'en fous pas, Franck, je suis larguée. Tu comprends ça? Larguée. Alors au point où j'en suis, je peux tout te balancer. Oui, je pense que ma mère est vivante. Et pourtant, je sais que c'est impossible. J'ose plus te parler, Franck. Je sais qui a tué mes parents, qui a foutu en l'air la direction de la Fuego, qui a... Je m'en fous, Clotilde!
Franck avait haussé le ton.
Je me fous de cet accident! Je me fous de tes parents morts il y a 27 ans! Je me fous de ton frère que j'ai jamais vu! Je me fous de tout ça! Tout ce qui compte, tout ce qui me rend dingue, c'est que tu as embrassé un autre type que moi, qui t'a tripoté et que vous aviez rendez-vous ce soir pour baiser. Je peux pas accepter ça, Clo. Je peux pas. T'as tout gâché en voulant revenir ici, Clo. Tu gâches tout!
Pendant tout le temps que dura leur longue descente, ils ne prononcèrent pas un autre mot. Franck se tenait face à son café, très tiré. Valou, face à un bol de lait chocolaté couvert d'une montagne de cornflakes, deux œufs sur le plat, un jus d'orange, fraîche comme une rose. Derrière eux, Clotilde s'activait. Franck but une gorgée avant de parler.
Tu veux une bonne nouvelle, Valou? Le bateau, le 470 que j'ai loué pour la journée. On peut le garder plus longtemps. Deux jours, trois jours, une semaine. J'ai négocié. C'est arrangé.
Valou creva les deux yeux jaunes dans son assiette.
On va passer une semaine à trois sur un voilier?
À deux, Valou. À deux. Maman vient pas. On fera des escales. Ajaccio, Porticcio, Propriano. Sans parler des criques accessibles uniquement par la mer.
Valou épongea l'œuf sur le plat avec le pain frais, sans demander d'autres précisions, se contentant de sortir son téléphone portable à l'image d'un PDG qui, en urgence, doit décommander ses rendez-vous des prochaines journées. Derrière eux, Clotilde allait et venait, chargeait le sac de Valou d'habits chauds, de médicaments, de brosses à dents, de crème solaire, de ses gâteaux préférés, des gâteaux préférés de Franck, en quantité suffisante pour deux. Jouait le rôle de la parfaite épouse, prévenante et attentionnée. Pouvait-il aider à tout réparer? Crétine. Pourquoi considérer aujourd'hui que c'est un rôle qu'elle tenait, alors qu'elle exécutait ces mêmes gestes quotidiens depuis des années? Franck se leva.
« Laissez !» fit Clotilde. « Je vais débarrasser. »
8h57. Le minibus du camping les attendait. Clotilde et Franck marchaient vers le parking des Eupproctes, encombrés de lourds sacs. Valentine suivait, les yeux rivés sur son portable comme si elle avait téléchargé une application GPS qui lui permettait de ne pas se perdre dans le camping. Franck fuyait. Il détalait. Il prenait le maquis. Il prenait le large sur une chaloupe alors que le bateau coulait. Raisonner ainsi, pensait Clotilde. Était-ce une façon de nier que c'est elle qui l'avait trompé? Que c'est elle qui avait tout provoqué? Elle n'arrivait pourtant pas à se sentir coupable. Tout ce qui arrivait semblait avoir été programmé, depuis des années. Elle n'était qu'un jouet. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser que Franck l'avait espionnée, lui avait caché une part de vérité, qu'il était le mieux placé, au fond, pour avoir tout manigancé, du vol des papiers dans leur coffre à la mise en scène du petit déjeuner, qu'il voulait la rendre folle, qu'il l'avait empêchée de revoir sa mère hier, qu'il lui volait sa fille, aujourd'hui, qu'il lui reprochait d'avoir fui quelques heures pour retrouver Nathalie. Mais c'est lui qui maintenant disparaissait, pour plusieurs jours, pour une destination dont elle ne savait rien. C'est Franck qui avait imposé cette coupure, le temps de faire le point. Pour protéger Valou, avait-il avancé. Clotilde n'avait pas refusé. Après tout, c'est ce qu'elle voulait. Du temps pour enquêter. Marco, le chauffeur, se tenait devant le minibus du camping.
« Faut y aller !»
Clotilde embrassa Valentine, puis se tint comme une idiote devant son mari.
« Vous m'appelez? Promis, vous m'appelez ?»«
Si on a du réseau dans le triangle des Bermudes !»
répondit Valou sans lâcher son portable. Le minibus disparut au bout de la route. Franck s'était arrangé avec Cherbonne et Spinello pour le transfert jusqu'au port de Calvi, où il récupérait le 470, afin de laisser la passade à Clotilde. Les seuls mots qu'il avait adressés à sa femme, ce matin, concernaient le véhicule, les papiers dans le vide-poche, le niveau d'huile, la pression des pneus, la clé pour le réservoir. Elle avait écouté d'une oreille distraite, semblant connaître déjà avec précision le fonctionnement d'un moteur. Franck, lui aussi, jouait un rôle. Celui du mari blessé dans son orgueil, mais qui met un point d'honneur à demeurer attentionné. Son alter ego masculin. Aussi stupide qu'elle. En plus cynique, peut-être. Parmi ses recommandations, si jamais elle devait utiliser la voiture pour aller se promener, il n'avait pas pu s'empêcher de lui montrer comment les sièges s'inclinaient. D'autres monoplaces, d'autres camping-cars, d'autres voitures, d'autres familles passaient sur la route de Calvi. Clotilde ressentit une intense boule au ventre. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il la quittait. Franck accompagnait Valou au basket chaque samedi. Quelques heures, pas quelques jours. Quelques heures dont Clotilde profitait pour s'évader, allongée avec un roman, pas avec un amant. Clotilde avait perdu de vue le minibus depuis de longues secondes, mais n'avait pas bougé. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à son père, qui était parti lui aussi sur un voilier, quelques jours avant l'accident de la Petra Coda. C'est du moins ce qu'on lui avait raconté. Il n'était revenu que le jour de la Sainte-Rose, le 23 août, après-demain. Une main frôla son bras. Elle se retourna. Cherbone et Spinello se tenaient derrière elle. Il avait passé les consignes à son employé, accepté gracieusement de transférer Franck et Valou.
« Te plains pas, Clotilde, ton mari part avec ta fille. La plupart des mecs se seraient tirés en te laissant la gosse sur les bras. »
« Laisse tomber, Cherbonne. »
Le patron du camping ne se vexa pas, ne retira pas ses doigts de son bras pour autant. Clotilde se mordit les lèvres. Hors de question de chialer devant ce salaud. Hors de question que ce soit lui qui lui tende un mouchoir. En cherchant une issue de secours pour échapper à son discours, elle se fit la réflexion qu'elle n'avait pas croisé Orsou dans le camping depuis le début de la matinée. Où était-il passé depuis la marche nocturne jusqu'à la cabane de berger? Bien entendu, elle aurait pu demander à Cherbonne, mais elle n'avait aucune envie de mettre le patron du camping dans la confidence. Elle dévia vers une autre question.
« Toujours pas de nouvelles de Jakob Schreiber ?»«
Aucune, » répondit Cherbonne. « Si ce soir je n'ai aucun signe de vie du vieil Allemand, je préviens la gendarmerie. »
Clotilde s'interrogea. Pourquoi ne l'avait-il pas fait plus tôt? Cherbonne avait l'air plutôt pote avec le capitaine Cadena. Elle allait lui faire la réflexion quand Spinello lui grilla la politesse.
« J'ai un message pour toi, Clotilde, de la part de ta mamie Lisabetta. Elle a téléphoné à l'accueil. Elle avait l'air complètement paniquée. Ton papé Cassanou veut te voir le plus vite possible. »
« À Arcanou ?»«
Non. »
Il laissa quelques secondes de suspense avant de continuer. « Là-haut. » Il fixa les nuages qui s'accrochaient à la montagne, en direction du Capo Diabetta. Clotilde suivit elle aussi des yeux la ligne de crête, jusqu'à s'arrêter sur une minuscule croix noire qui se détachait dans le ciel. Des souvenirs affluaient, purs, légers, que Cherbonne en une phrase pollua.
« À moins qu'il ne se fasse déposer en hélicoptère, ce vieux fou va crever au pied de la croix. »